Salut Daniel, je ne sais pas si tu as regardé les résultats de Corbeil. Je pensais à la réflexion de Guy Bedos il y a 22 ans déjà, qui disait le drame pour la gauche, c'est que les gens qui votent à gauche sont moins à gauche que les gens qui votent à droite sont à droite. Dans une ségolène qui a voté quand même à 60% pour Ségolène Royal, que la droite passe à plus de 53%, ça laisse à réfléchir et ça laisse augurer que finalement Sarkozy n'est pas battu, malheureusement. Salut, c'était Hugues de Paris.
Bonjour cher Angé, bonjour Mermé. J'aimerais bien laisser un message en ce qui concerne Marine Le Pen. Maintenant, on a compris que les élections s'approchent et chacun veut récupérer les voix de l'extrême droite entre l'UMP et le Front National. Et comme toujours, les victimes, c'est les musulmans. Chacun fait son fond de commerce sur le dos des musulmans. Voilà. Nicolas Sarkozy, il dit les moutons de la baignoire et ainsi de suite. On occupe les rues, maintenant, bon. C'est comme ça, c'est toujours comme ça, c'est les musulmans qui payent. Allez, portez-vous bien.
Hier, sur TV5, on nous montrait les manifestations des ouvriers et des ouvrières du Bangladesh, matraqués par la police, qui tiraient à balles réelles. 3 morts, des dizaines de blessés. On leur avait promis de doubler leur salaire en novembre. Quand je vois des affiches publicitaires d'H&M dans le métro, je sors mon feutre et je note « Fabrication Bangladesh, salaire mensuel 23 euros, horaire 72 heures semaine ». Condamnons aussi les autres distributeurs de vêtements, Lévi-Strauss et Carrefour. Jean Nouvel a refait la devanture du principal magasin à Paris. Il est temps de faire des manifestations devant ce magasin. Si quelqu'un a une idée, je suis prête. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Bonjour, c'est M. Thierry Cachamant de Bruxelles. Vous avez bien essayé de faire un reportage de vérité. Pour moi, ce que je demande pour moi, c'est pour les Congolais qu'ils puissent avoir une bonne vérité et clarté à tout ce qui s'est passé comme massacre à la République démocratique du Congo. Et que cette génocide que le monde, CNPD, n'est pas vraiment comprendre. Vous avez fait quelque chose, s'il y a moyen de diffuser ça à plusieurs moments, plusieurs fois, comme ça, le monde puisse bien comprendre. Merci, merci, merci. Tout ce que vous avez fait. Merci et bonne soirée. Merci. Ciao.
Bonjour l'équipe de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, et merci d'avoir été là-bas au Congo, puisque le sujet est tabou jusqu'à présent. Ça sort un peu avec le rapport que vous avez évoqué, mais c'est surtout parce que les États-Unis sont opposés à ce qu'on en parle, parce qu'ils sont impliqués, on en a peu parlé jusqu'à présent, ils sont impliqués aussi avec l'Angleterre et Israël dans une politique de containment contre le Soudan islamiste, dans laquelle prennent part les nouveaux leaders de la région, Kagame au Rwanda et Museveni en Ouganda, Kabila au Congo, etc. Je crois que ça aussi, il fallait le dire. Sur Turquoise, j'aurais quelques réticences à penser que c'est uniquement pour sauver les génocidaires Hutus, puisque des milliers de Tutsis ont été sauvés également, et aussi des Hutus dont certains ont ensuite été massacrés à Kibeho quelques mois après, au Rwanda, une fois que Turquoise était parti. Donc c'est pas négligeable. Et je vous remercie aussi, enfin je suis effectivement d'accord avec cette idée qu'il ne faut pas projeter la grille de lecture européenne sur ce qui s'est passé au Rwanda. Voilà, à part ça, il y a des ouvrages qui sont sortis, et je vous recommande sur le Rwanda celui d'André Guichawa, et Carnage de Péan qui vient de sortir aussi sur les stratégies actuelles, et les films de Soper et de Jeanne El Tari. À bientôt.
Bonjour, alors juste quelques mots pour exprimer un grand soulagement, parce que c'est quand même bon quand quelques grands médias questionnent un peu la vérité officielle, la mettent en doute au sujet du Congo, Kivu, Rwanda. Mais il me semble qu'il y a quelques points encore à préciser. Moi je suis une simple instite, plutôt antimilitariste, mais j'ai rencontré de nombreux Rwandais, et parmi eux des Tutsis, qui racontent comment l'armée française a sauvé leur famille. Alors ben oui, c'est dur pour certains militants, c'est dur à admettre, mais je crois que l'opération turquoise a permis de mettre à l'abri de l'autre côté de la frontière des génocidaires, oui c'est vrai, mais aussi et surtout beaucoup de Rwandais innocents, des Hutus et des Tutsis, souvent victimes. Et puis j'espère aussi qu'un portrait plus précis du gouvernement rwandais sera fait ces prochaines fois. Comment la grande spécialiste Brackmann, je me demande toujours comment est-ce qu'elle peut faire comme si elle ne savait pas. Comment est-ce qu'elle peut, par exemple, appeler le Rwanda de Kagame une démocratie, quel que soit le qualificatif qu'elle y accole. Tous les opposants ont été éliminés ou tués ou en prison toujours. Même les Rwandais de la diaspora en Europe, ou ceux que vous avez rencontrés, ont toujours peur. Et puis aussi, est-ce que vous aborderez le simulacre de justice du TPIR, Tribunal Pénal International pour le Rwanda? Et comment les gachachas, ces tribunaux populaires qu'on présente ici comme des modèles de réconciliation, ont été instrumentalisés par le pouvoir rwandais et n'ont pu faire que semer la soif de revanche. Et puis surtout, surtout, n'oublions pas de répéter que ces massacres au Kivu, après le génocide de 1994, sont les plus monstrueux de la planète ces dernières décennies. Les victimes, directes ou indirectes, se comptent quand même par millions. Alors je me demande comment peut-on, en même temps, utiliser le traumatisme européen de la Shoah pour légitimer la prise de pouvoir de Kagame, et en même temps, au même endroit, tolérer dans l'indifférence générale ces tueries qui s'approchent beaucoup de volonté d'extermination et la torture inouïe de la terreur qui transpire dans vos reportages d'ailleurs et qui bousille une génération après l'autre. Merci.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe, Jean-Pierre de Grenoble. J'appelle suite aux deux émissions là, que tu as commencé à faire sur le Congo et le Rwanda. C'est très intéressant et très compliqué à la fois. J'avais enregistré des émissions que tu avais fait à l'époque sur le Rwanda en 95 et 96 et j'ai une quinzaine d'heures d'émissions enregistrées pour essayer de se replacer dans le contexte et de décrypter un peu le contexte un peu compliqué. Et je suis retombé sur une cassette dans laquelle tu parlais de la petite Valentine. Bah, c'était pour savoir si tu pouvais nous donner de ses nouvelles, qu'est-ce qu'elle est devenue. C'est une gamine que tu avais trouvée sur un charnier à l'époque. Et bah, je suis retombé sur une cassette, là, j'ai entendu ça. Merci, ciao.
Merci pour tous ces messages, chers auditeurs. À ce dernier auditeur, je peux dire que Valentine va bien. Elle, c'est une magnifique femme maintenant. Et ouais, c'était il y a 16 ans. Et elle vit aux États-Unis, elle vit exactement à Philadelphie. Et on est resté bien évidemment en contact à travers les années. Donc aujourd'hui, on continue avec le Congo, Kivu, Katanga. Mais on va faire une pause. On va faire une pause qui correspond à peu près à ces questions posées par l'auditrice précédente, ce long message sur le Rwanda, les qualifications de génocide sur l'actuel gouvernement du Rwanda, sur l'immunité, sur l'exploitation du capital victimaire, etc., avec André Guichawa. André Guichawa est un universitaire, c'est aussi un chercheur et on peut vraiment dire, là pour le coup, un spécialiste de cette région du monde et notamment des politiques criminelles qui se sont manifestées au Rwanda entre 1990 et 1994. Il a été présent comme expert au tribunal pénal d'Arusha à plusieurs reprises et il suit ça de très très près et il est l'auteur d'un bouquin qui est sorti il y a peu de temps, donc Rwanda de la guerre au génocide aux éditions de La Découverte. J'ai voulu qu'on fasse un arrêt un peu aujourd'hui avec lui pour essayer, comme on s'était promis, de tenter de réussir à vous intéresser à ce sujet qui est crucial et qui intéresse. On n'était pas sûr au début, mais qui vous intéresse beaucoup parce qu'il y a évidemment l'implication ou non, et à quel degré de la France dans cette histoire. Il y a aussi des projections qui sont faites, je parlais de projections mémorielles qui sont faites sur ce qui s'est passé il y a 16 ans au Rwanda, sur les suites et puis sur cette Afrique, même si elle était sous contrôle belge très longtemps, qui quand même appartient à cette une ombre portée française, je dirais, qui en tourmente et en intéresse et en captive plus d'un dans le pays. Avant de commencer, je voudrais saluer les ouvrières du textile du Bangladesh. Vous savez peut-être que 4 personnes ont été tuées dans des manifestations contre les bas salaires qui sont de 15 euros au Bangladesh. Je parle d'ouvrières du textile, c'est l'activité principale dans ce pays. Or, une augmentation avait été accordée, reconnue par le gouvernement, et aussitôt une grande entreprise sud-coréenne qui contrôle 17 usines a fermé les usines, jetant les ouvrières et les ouvriers dans la rue. Manifestation, 4 morts pour l'instant, et le combat continue continue. Il faut rappeler que la confection au Bangladesh emploie 3,5 millions de personnes, dont 85% de femmes. Et elle, c'est elle qui fabrique ce qu'on voit chez Walmart, chez H&M, chez Zara, chez Marks & Spencer et beaucoup de marques françaises. Donc voilà, la police a tiré à balles réelles sur ces femmes et sur ces manifestants. On dit que BHL, très préoccupé, comme vous le savez, par l'oppression des femmes dans les pays musulmans, a lancé un mouvement de boycott des marques fabriquées dans ces conditions au Bangladesh. Je plaisante, bien évidemment. Quant à Marine Le Pen, dont l'insanité captive tous les commentaires et toute l'actualité, semble-t-il, il n'y a absolument pas rien d'original dans ce qu'elle a dit. C'est un propos qui s'inscrit dans l'islamophobie ordinaire, dans cet amalgame quotidiennement pratiqué par certains entre islam, islamisme et extrémisme, nazisme ou stalinisme. Depuis des années, l'islamo-fascisme est régulièrement brandi comme le spectre, le grand Satan et le grand danger par notre civilisation. Je vous envoie tout, par exemple, à un article présenté dans l'Express, publié dans l'Express en mars 2006, où des intellectuels se lançaient ensemble contre un nouveau totalitarisme. Et on retrouvait déjà à l'époque Bernard-Henri Lévy. Sur ce sujet de l'islamophobie, je vous renvoie à un autre texte de Alain Grech dans Le Monde diplomatique, qui, je crois, date de 2001, qui s'intitule « Islamophobie ». Vous pourrez le trouver très facilement sur le site du Monde diplomatique. Voilà, on part donc autour du Rwanda, dans l'histoire récente du Rwanda, avec André Guichawa. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, ici c'est les personnels du lycée agricole Lucie Aubrac de Davayé. Nous sommes en grève aujourd'hui, contre l'annonce de la suppression de deux postes, un en allemand et un en EPS. Au ministère, on appelle ça mutation dans l'intérêt du service. Nous nous disons que c'est de la casse du service public. Attaché à la qualité de l'enseignement agricole et à la valeur du service public, nous refusons tout compromis qui porterait atteinte à nos missions. Nous ne céderons pas à la froide logique comptable. Nous espérons que notre ministre de tutelle, M. Bruno Le Maire, à l'agriculture, germaniste et défenseur des relations franco-allemandes, sera sensible à notre appel. Merci.
Amis du Nord et de l'île, bonjour. Ce soir, pour la dernière réunion de l'année 2010, les amis de là-bas écrivent leur lettre au Père Noël. Venez nombreux, car la liste des souhaits et des actions est très longue. Nous nous retrouvons donc à 20h au café Repère L'Imaginaire, 5 place Louise Bétigny, dans le Vieux-Lille. À ce soir.
Salut à toute l'équipe et à tous les AMG. En raison des fêtes de fin d'année, nous n'aurons pas de repère du Pays d'Aix le 4e mardi du mois de décembre. Le repère du mardi 14 décembre sera donc le dernier de l'année. Il se tiendra au Bar Le Festival en bas du cours de Mirabeau à Aix-en-Provence à partir de 19h30 et nous avons choisi de débattre sur le thème « Frontières et territoires ». Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil, Congo, Kivu, Katanga, ce magnifique gâteau africain aujourd'hui avec André Guichawa. André Guichawa, vous êtes un observateur. Je ne vais pas dire un spécialiste parce que vous allez me dire non, je ne suis pas un spécialiste. Alors vous êtes un observateur méticuleux et déjà ancien de l'Afrique des Grands Lacs, et notamment du Rwanda, du Burundi et de la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo, du côté est où nous sommes en ce moment dans nos émissions, au Kivu, Nord Kivu, notamment. Vous êtes l'auteur d'un énorme bouquin qui s'appelle « Rwanda de la guerre au génocide » et qui couvre la période 1990-1994, c'est-à-dire avant le génocide du Rwanda. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire ce rapport des Nations Unies publié il y a très peu de temps, faisant état de crimes, de massacres, de crimes de guerre et d'actes de génocide qui ont été perpétrés dans la période. Alors, 1993-2003, hein, les Nations Unies ont pris une période très longue, mais notamment 96-98, et le terme suggéré, entrevu, pourrait être acte génocidaire. Alors, c'est un sujet très sensible en France, curieusement, parce qu'après tout c'est loin, parce qu'après tout il y a d'autres drames dans le monde qui pourraient nous passionner, nous intéresser, mais celui-là nous fixe tout particulièrement. Or, il y a eu le génocide des Tutsis de 1994, et il y a une difficulté à reconnaître les atrocités dont les Hutus, à leur tour, ont été les victimes. Quel est votre point de vue et votre analyse? Mais ma première question, c'est de savoir pourquoi, selon vous, les Français sont si sensibles à ce problème?
Parce que la France participe, d'une manière ou d'une autre, en tout cas au travers de certaines de ses institutions composantes, hein, qu'elles soient militaires, politiques, ou les médias, etc., participe des événements de 1994, mais aussi avant, par le soutien qui a été apporté de manière explicite de 1990 à 1994 au régime de Juvénal Habyarimana. Bon, ce soutien s'est fait dans le cadre d'accords militaires, comme il y en avait à l'époque 25 ou 26 avec des pays africains. Sauf que, en 1994, on s'est trouvé dans une situation où du soutien militaire à un régime légitime face à une rébellion, le basculement s'est opéré. Au travers d'un attentat majeur qui a causé la mort du président rwandais et du président burundais et qui a été d'une certaine façon l'élément qui a fortement contribué au déclenchement de ce qui est devenu le génocide des Rwandais Tutsis de 1994.
En quelques mots, selon vous, qui avez longuement travaillé sur cette question, quelle est la responsabilité de la France dans le génocide du Rwanda?
Je ne pense pas qu'on puisse utiliser les termes de manière jumelée aussi claire. Le débat tourne à l'heure actuelle sur la notion de ce que les juristes appellent la théorie du complot, c'est-à-dire y a-t-il eu une préparation, une anticipation du génocide ou le génocide s'est-il enclenché suite à une série d'événements à partir du 6 avril, c'est-à-dire d'un conflit civil, d'une guerre civile qui dérape et qui se transforme en véritable projet génocidaire d'une ethnie, c'est-à-dire dans la pratique de la prise en otage des populations tutsies de l'intérieur et de leur massacre systématique. Bon, la France a certainement contribué et su ce qu'il en était de la vie politique, des risques, de l'existence de groupes extrémistes, d'attentats, d'assassinats, commis d'ailleurs par autant la rébellion que les forces au pouvoir. Mais la question demeure pendante. Le génocide a-t-il été, entre guillemets, planifié au sens où existait-il un projet génocidaire assumé par les autorités en place? Bon, et la réponse sur ce point a été extrêmement précise, extrêmement claire par le tribunal pénal d'Arusha. Ce n'est pas le cas. Les juges ont refusé systématiquement de reconnaître parmi les, les délits, les crimes commis, la notion de complot, c'est-à-dire
de préméditation.
De préméditation du génocide proprement dit. Par contre, les deux jugements qui ont intégré la notion de conspiration dans le cadre du génocide concernent les ministres du gouvernement intérimaire qui ont été mis en place pendant la période du génocide et qui, eux, ont effectivement planifié, organisé méthodiquement le génocide.
On va revenir sur le déroulement du génocide, mais je voudrais que vous soyez plus précis sur les responsabilités françaises. C'est un débat, c'est une controverse, même une véritable polémique en France depuis des années sur cette responsabilité. Quel est votre point de vue en tant qu'expert, non pas en tant qu'accusé encore.
En tant qu'expert, disons, des forces françaises peuvent rétroactivement être mises en cause pour ne pas avoir vu, anticipé, pour avoir soutenu, côtoyé, promu des forces qui se sont retrouvées à l'œuvre au cours de la période du génocide. Bon, voilà.
Est-ce que les autorités françaises étaient au courant, à ce moment-là, sur place ou à Paris, de ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire les meurtres des membres du gouvernement? Est-ce que le...
Ah, ils ne pouvaient pas l'ignorer, ne serait-ce que parce que les premières réunions qui ont eu lieu le 7 avril de cette fraction du gouvernement qui s'est réfugiée à l'ambassade de France...
Donc l'ambassade de France protège les génocidaires, à ce moment-là, selon vous?
Si on dit que le génocide a commencé le 7 avril... Or, ce qui est qualifié de génocide à l'heure actuelle, en tout cas par l'ensemble des jugements du tribunal pénal, ce sont les actes qui sont pris en charge par les membres du gouvernement intérimaire à partir du 9 avril. Donc, que l'ambassade de France soit parfaitement informée que la composante qu'elle héberge est la même que celle dont une fraction prend des ordres pour assassiner l'autre composante, hein, ça c'est vrai. Je pense que l'ambassade de France a choisi son camp en réceptionnant une partie de la nomenclatura proche du régime. Bon, qu'ils aient imaginé ou pas que les mêmes allaient être quelques jours après, je dirais, les organisateurs, les planificateurs d'une politique génocidaire assumée. Bon, ça, je ne me prononcerai pas de manière massive. Bon, mais je crois que les choix qui ont été faits, notamment le 7 avril, sont des choix pour le moins malencontreux.
Malencontreux, mais politiques. Qu'est-ce qui sous-tend ces choix politiques, selon vous ?
Bon, il y a une tradition légitimiste, c'est-à-dire que le choix, c'est le maintien d'un certain ordre et les autorités qui étaient en place. Bon, la France a toujours travaillé sans trop se poser de questions sur la nature du pouvoir, sur la réalité de pratiques démocratiques ou non démocratiques. Et que ce soit une armée Hutu ou une armée Tutsi...
C'est-à-dire que voilà, si les Tutsis avaient été au pouvoir, le gouvernement français les aurait soutenus.
Exactement. C'était les fonctions qui en était attendu. Bon, pourtant, le régime était aussi autoritaire en 87 qu'en 90. Hein.
Il faut pas mal de temps pour que retombe la poussière de l'émotion, la poussière de la sidération. Ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, 100 jours durant lesquels le monde entier regarde des hommes, des femmes et des enfants se faire couper en morceaux est une sidération extraordinaire, une énigme qui restera probablement une énigme. Mais peu à peu, malgré tout, il y a comme la poussière retombe et on voit un peu les choses se dessiner. On voit même les choses se préciser. Elles n'apparaissent pas d'elles-mêmes. Il faut que les historiens fassent leur boulot, que les chercheurs fassent leur travail, que les uns et les autres, peu à peu, avancent, se confient et parfois même se taisent. Mais quelque chose indéniablement avance sur la connaissance que nous pouvons avoir de ce qui s'est passé là et qui, encore une fois, vous l'avez compris, est crucial pour nous tous, pour cette humanité dans laquelle nous sommes en ce moment, parce qu'après tout, comme disait Beckett, en ce moment, qu'on le veuille ou non, l'humanité, c'est nous, mais aussi évidemment pour cette région de l'Afrique, des Grands Lacs, pas seulement le Rwanda, ni même le Burundi, mais toute cette... région. Et donc, André Guéchavoy est sans doute de tous les chercheurs, il y en a beaucoup, mais il y a plus, je pense, de polémistes et de militants plus ou moins bien intentionnés que de chercheurs méthodiques dans cette histoire, et André Guéchavoy en fait partie.
Alors, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière sur le 6 avril 1994, le tir sur l'avion. Oui, je sais bien que ça vous fait sourire parce que c'est le grand débat depuis 16 ans. Quelle est votre version à vous ? Quelle est votre interprétation de cet attentat ?
Bon, à partir du moment où j'ai publié un certain nombre d'éléments d'information dans mon ouvrage, en ayant attendu 15 ans, je pense que le mot, comment dire, élément d'interprétation ou conviction, etc., enfin, ces termes-là ne conviennent pas. J'estime que, en tant qu'universitaire, on n'a pas à avoir des intimes convictions sur ces faits-là. Bon, j'ai pu disposer d'éléments qui m'ont été remis par des officiers de l'armée rwandaise au cours de l'année 2001, qui indiquaient un certain nombre de personnes comme étant impliquées dans l'organisation de l'attentat du 6 avril. Qui était mise en cause, c'était la rébellion, FPR.
Alors en clair, selon vous, selon vos documents, Paul Kagame serait l'instigateur de cet attentat.
Disons qu'on dispose depuis cette date de deux sources d'informations qui arrivent à la même liste. Bon, mais surtout, et c'est ça qui après, enfin en ce qui me concerne, a donné un crédit à cette thèse, c'est que effectivement, la quasi-totalité des personnes qui avaient été concernées par la rédaction de ce rapport, pour l'un, a été assassiné. Or, c'était une personnalité éminente du régime. Et pour les autres, ont dû fuir le pays très rapidement. Voilà.
Alors, vous avez bien pris le soin de dire « je suis un universitaire ». Moi, je ne marche pas sur des sentiments ni des impressions. Je fais un travail précis et scientifique. Donc, vos conclusions, c'est... L'instigateur ou les instigateurs de cet attentat sont la direction du FPR de l'époque et l'actuel président du Rwanda.
Oui, disons que ma démarche a été quand même, je dirais, bien particulière, puisque avant de publier cet ouvrage, puisque c'est la première fois que je m'exprime explicitement avec un chapitre consacré à ce sujet, j'ai souhaité, comme je l'ai fait pour tous mes écrits, que ces écrits soient déposés en preuve dans un cadre judiciaire. Et donc, dans la quinzaine qui a précédé la publication de l'ouvrage, j'ai été déposé ces éléments devant le juge français Trévidic, qui est désormais en charge de ce dossier.
En Afrique, deux chefs d'État sont morts en même temps.
France 2.
Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda.
6 avril 1994.
Cela faisait 20 ans que le général-major Habyarimana était à la tête du Rwanda. Cyprien Ntaryamira était lui presque un novice. Il n'occupait le fauteuil de président du Burundi que depuis janvier dernier. Choisi par le Parlement, il se voulait homme de dialogue. Tous deux revenaient d'un sommet de chefs d'État africains en Tanzanie. Leur avion aurait été abattu au moment d'atterrir sur l'aéroport de Kigali, la capitale du Rwanda. La mort brutale des deux chefs d'État risque de relancer la guerre tribale qui oppose au Rwanda comme au Burundi deux ethnies.
Alors dites-moi, est-ce que vous pensez que l'instigateur ou les instigateurs de cet attentat savaient, pensaient que l'attentat allait déclencher les massacres et le génocide?
Bon, alors ma réponse, elle va être catégorique. Un, je n'en sais rien.
Ça, c'est une bonne réponse.
Deux, on ne peut pas l'anticiper. On ne peut mélanger à la fois, je pense, des faits et des supputations. Que le président Kagame ait anticipé et, je dirais, joué à un système de jeu de go à long terme, machiavélique, etc., on peut éventuellement l'imaginer. Mm-hmm. Mais en tout cas, cela n'est pas à l'heure actuelle démontré, cela n'est pas prouvé dans l'ordonnance du juge Bruguière, et à mon sens, cela ne doit pas figurer dans un document judiciaire d'instruction.
Quel est le sens de cet attentat à ce moment-là ? Si l'attentat n'avait pas pour but de déclencher les massacres, quel était le but
de cet attentat, à mon sens...
Le but politique.
Bah, La raison essentielle est que il n'y avait pas d'issue proprement politique pour le FPR. C'était trop tard. La possibilité de contrôler le pouvoir avec l'opposition intérieure n'était plus de rigueur. Et d'autre part, rentrer dans un système, une période de transition avec des élections au terme, pour le FPR, il n'avait pas de base politique lui permettant de remporter des élections. Bon, donc le FPR, sa force était l'armée. Et à mon sens, il l'a joué parce que, de toute façon, il n'avait plus d'autre issue. Alors maintenant, c'est ça, à mon sens, la question centrale du début du génocide et des jeux des uns et des autres. C'est que dans la région, on a une tendance à programmer et à anticiper de manière souvent machiavélique, certes, mais que les meilleurs calculateurs finissent par eux-mêmes, je dirais, se prendre un peu les pieds dans le tapis et à se retrouver face à des situations inédites. Et ces situations inédites, on les a vues, et ça, je crois que ça a été la décision absolument exceptionnelle de ce colonel Bagosora, donc qui est l'élément central, à mon avis, et du contre-coup d'État, si l'on veut, du génocide dans un deuxième temps, c'est qu'il a pris tout le monde de vitesse au nom du clan présidentiel en assassinant la première ministre, en assassinant les forces qui étaient susceptibles de négocier avec le FPR. Et ça, il l'a fait, à mon sens, parce que, il a été pendant toute sa carrière un rival du président Juvénal Habyarimana. Il était minoritaire au sein du comité militaire de crise qui a tenté de gérer les choses le soir. Il a vu que ces gens étaient, je dirais, entre guillemets, des démocrates, et attendaient des Nations Unies, des accords, etc. Et lui a pris tout le monde de vitesse et, avec les éléments radicaux, a commencé à nettoyer le terrain pour faire l'unité contre le FPR.
Et les massacres commencent.
Ils ont commencé pour une partie immédiatement. Et là, ce sont des ordres qui ont été donnés parce que ces milices du parti, de l'ex-parti unique, avaient quand même pour fonction le maintien de l'ordre et la surveillance dans les quartiers. Mais les massacres ne deviennent véritablement, je dirais, des massacres génocidaires, disons de programmation massive des massacres, qu'à partir du 9, c'est-à-dire quand le nouveau gouvernement est mis en place et quand ce gouvernement perçoit qu'il va devoir rendre des comptes. Rendre des comptes parce que des casques bleus belges ont été assassinés, parce que des ministres du gouvernement ont été assassinés. Et là, ce gouvernement décide en fait d'entraîner tout le monde dans une politique suicidaire, en sachant que pour eux, la guerre était perdue. En tout cas, ils l'ont bien perçu, mais qu'ils allaient absolument faire une table rase et éliminer l'adversaire en imaginant, et ça, c'est là que l'on revient maintenant à la question de la France, en imaginant que s'ils sont acculés, les puissances étrangères, dont la France, empêchera que le FPR s'empare de la totalité du pays.
Jean-Hélène, vous êtes en ligne avec nous de Kigali. Vous venez d'arriver dans la capitale du Rwanda cet après-midi. Est-ce que ces massacres continuent aujourd'hui, Jean ?
RFI.
Oui, les massacres continuent. En effet, je suis allé à l'hôpital. Les blessés continuaient d'arriver.
9 avril 1994.
Je sais que cet après-midi, une famille entière a été massacrée dans l'enceinte d'une mission religieuse où ils avaient trouvé refuge. Et dans l'hôpital, c'est une morgue qui déborde de cadavres, qui s'empilent, et puis des salles d'urgence où on marche dans le sang, des blessés couverts de plaies, donc qui gémissent. On voit des enfants, des vieillards, des femmes, sans aucune distinction.
Ces massacres se pratiquent avec des machettes. Et pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas de l'extérieur ? Ça dure pendant 100 jours. On est au courant, il y a peu de journalistes qui sont à l'intérieur, mais il y en a quand même, on sait très bien ce qui se passe. Première question, pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas de l'extérieur pendant 100 jours? Et aussi, pourquoi est-ce que le FPR n'enraye pas ces massacres? Parce que le FPR était réputé une armée entraînée, on parlait des Khmer noirs, je me souviens. Et donc pourquoi est-ce qu'on laisse se dérouler ces massacres aussi longtemps, de l'intérieur comme de l'extérieur?
Bon, dans les premiers jours, ça c'est la question qui n'est pas réglée, qui angoisse. Il y a quand même eu des forces qui étaient présentes, des milliers de militaires français, en tout cas de 3000, autant de Belges, 800 Américains qui étaient à proximité. Il y avait les 2000 et quelques militaires de la MINUAR. Bon, ça fait quand même une capacité d'intervention forte. Bon, et sur place, si la décision avait été prise d'intervenir, je ne suis pas militaire, mais je pense qu'il était possible de prendre le contrôle effectif de la situation. Mais cela aurait supposé que ces forces veuillent travailler ensemble, ce qui n'était pas le cas. Entre les troupes françaises et les troupes belges qui étaient sur place pendant la première semaine, les contacts étaient pour le moins froids. En tout cas, on ne pouvait imaginer que les uns qui venaient, entre guillemets, au nom d'un camp, et les autres qui étaient présumés être là pour un autre camp, ne pouvaient pas, en tout cas, conjuguer leurs forces pour empêcher les massacres. Bon, et cette solidarité a fait que les deux ont fui et, en plus, ont rapatrié les troupes des Nations Unies. Ça, je crois que c'est le premier élément fort. C'est-à-dire que le 11 avril, ça a été la débandade complète. L'ensemble des forces étrangères s'est retiré et on a laissé les belligérants face à face en sachant qu'un des deux camps était sûr de l'emporter.
Mais pas face à face. Le FPR, à tout moment, il suffit d'un AK-47 face à une foule de paysans, un groupe, une milice inerarmouée avec des machettes, avec une Kalachnikov, on les arrête. Donc, pourquoi est-ce que le FPR n'a pas enrayé ces massacres qui avançaient à travers le pays de manière méthodique?
Ça, c'est une question que se pose un grand nombre de militants et de cadres du FPR encore aujourd'hui. Alors là, vous avez deux thèses qui prévalent, qui sont mises en avant régulièrement par le FPR. La première, elle consiste à dire que c'était une volonté d'économiser les forces. C'est-à-dire que, bon, vu les effectifs de la population Tutsi et de leurs propres forces venant de l'extérieur, en termes démographiques, pour le dire simplement, il fallait minoriser les pertes au niveau des troupes. Donc, ne pas aller à l'affrontement. Mais ça peut être une tactique. De l'autre côté, c'est l'analyse machiavélique qui prévaut. À savoir que ça a été délibéré pour que les forces de l'intérieur, qui n'étaient pas acquises au FPR, la population Tutsi à l'intérieur...
La population à l'intérieur n'était pas acquise au FPR, dites-vous?
Ah non, là, c'était les partis Tutsi de l'opposition qui avaient une assise extrêmement forte et qui ont toujours montré vis-à-vis du FPR. À chaque fois qu'il y a eu des débats, par exemple, sur les modalités d'un processus électoral qui prévaudrait à la fin de la période de transition, eux avaient un système qui n'intégrait pas le FPR dans les débats sur les circonscriptions électorales, sur le mode électoral à l'intérieur.
Ils sont des dizaines de milliers sur des dizaines de kilomètres.
France 2.
Un peuple en marche qui fuit son pays.
15 juillet 1994.
Poussé autant par l'avancée du FPR que par la propagande de l'ex-gouvernement rwandais qui leur a demandé de quitter leur village. Après les civils, estimés aujourd'hui à plus de 500 000, ce sont maintenant les militaires de l'armée rwandaise qui cherchent à trouver refuge au Zaïre. Mais pour l'instant, c'est encore la débâcle dans le camp de l'ex-gouvernement rwandais. Une débâcle qui se traduit par l'exode de population le plus important de cette fin de siècle.
André Guichawa, on continue avec toutes ces questions. Venons-en à un sujet qui n'est pas tellement dans votre livre. C'est ce fameux rapport publié par les Nations Unies, par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, sur ce qui s'est passé après ce dont nous parlons, c'est-à-dire après 1994, après... que entre 1 et 2 millions de Hutus du Rwanda se retrouvent dans des camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière, donc pour l'essentiel au Kivu. Dans ces camps, rapidement, ceux qu'on appelle les génocidaires, pour simplifier, prennent le contrôle de ces camps, malgré la présence du HCR, des grandes organisations humanitaires, et préparent, semble-t-il, la réplique et la revanche, entraînent leurs hommes et leurs troupes pour la revanche. C'est au moins l'interprétation que donne le pouvoir de Paul Kagame, qui a pris le pouvoir en juillet 1994, et qui se dit menacé par cette présence derrière la frontière, ce qui va lui donner un prétexte pour envahir, en somme, le Zaïre à l'époque. Mais ce qui va se passer, c'est que cette invasion du Zaïre va entraîner toute une série de massacres dans les camps de réfugiés et hors des camps de réfugiés sur ces populations, Hutus donc, pourchassés, massacrés, persécutés, jusqu'à Kinshasa, au cours de cette longue marche
de Laurent-Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa. Au cours de ces événements, donc de nombreux massacres de Hutus qui figurent dans ce qu'on appelle le mapping, ce rapport. Ce n'est pas une surprise. Hein, ce rapport n'est pas une surprise. Au fur et à mesure, on a eu des rapports, on en a eu d'autres, on a eu des reportages, on a eu des missions diverses et variées pour signaler, témoigner et s'indigner de ces massacres. Sauf qu'aujourd'hui, ça a un retentissement particulier. Pourquoi ?
Alors, c'est un retentissement particulier parce que c'est le premier rapport qui finit par voir le jour. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, ces éléments étaient pour l'essentiel connus, en tout cas des milieux diplomatiques, des milieux militaires, etc. Et plusieurs rapports avaient été commandités par les Nations Unies depuis 1994. Hein. Et là, c'est la première fois qu'un rapport débouche. Mais je tiens quand même à préciser qu'avant qu'il ne débouche par le biais des Nations Unies, c'est-à-dire le Haut Commissariat des Droits de l'Homme, il a d'abord été publié par un journal qui est Le Monde, dans une version qui n'était pas définitive, mais tout laisse penser que si ce rapport n'avait pas été rendu public par Le Monde, il avait toutes les chances de ne pas voir le jour définitivement. Donc voilà, ça je crois que c'est un des éléments, c'est-à-dire c'est la première fois depuis 1994 qu'une mise en cause explicite de l'actuel régime arrive à son terme. Jusqu'ici, les tentatives ont été nombreuses de la part du HCR, de la part enfin de différents organismes, de pays qui ont eu des personnalités assassinées ou des ressortissants, etc. Mais jamais une procédure n'a pu aller jusqu'au bout parce que le Rwanda s'est très vigoureusement et fermement et systématiquement opposé à toute mise en cause de ces exactions, de ce que l'on appelait les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont la charge de les instruire avait été confié au tribunal pénal d'Arusha des Nations Unies et que le tribunal s'est finalement bien gardé d'entreprendre.
L'enfant est vivant, allongé, à côté de sa mère, morte.
France 2.
Autour des dizaines de cadavres.
15 novembre 1996.
Tué à la machette ou par balle. Chaque jour, nous en apprend un peu plus sur les horreurs de ce drame. Nous sommes dans le camp de Mugunga, au Zaïre, qui abritait jusqu'à hier près d'un million de réfugiés. Presque tous ont fui. Ici, pas de traces de famine, mais des preuves de massacre.
Alors, il y a le terme génocide qui intervient rapidement. Est-ce que pour vous, on peut parler de génocide, d'acte de génocide ? Je sais bien que c'est un peu obscène, ces subtilités, mais on sait toute la portée politique de ce mot. Quelle est votre analyse ?
Alors, il y a un tout petit préambule, mais qui a son importance. Le problème que pose ce rapport, justement, et avec cette qualification d'acte génocidaire, a été très systématiquement utilisé par certains responsables de la diaspora, Hutu, à l'étranger, pour faire l'amalgame, si j'ose dire, ou un décompte d'équilibre, hein, ou une annulation d'équilibre entre les crimes commis par les uns et les crimes commis par les autres. Et ça, je crois que c'est un point qu'il faut toujours mettre en avant maintenant que ce rapport a été rendu public. Le génocide des Rwandais Tutsis est une réalité incontournable et les crimes que l'armée patriotique rwandaise a pu commettre ne met absolument pas en cause la reconnaissance du caractère dramatique et tragique du génocide de 1994. Voilà. Donc ça, je crois que ça mérite d'être dit. Alors maintenant, la qualification d'acte génocidaire...
Non, mais c'est important, je vous coupe, c'est important de le rappeler parce que ce qui s'est dit et ce qui se disait aussitôt en 1994 du côté des Hutus, on rencontrait des gens qui disaient « mais c'est pas génocide, pourquoi on nous accuse de génocide ? C'est la guerre, oui, il y a eu des massacres, c'est à regretter, mais après tout c'est la guerre, ça entraîne des massacres, que voulez-vous ? » Et c'est un peu ça qu'on risque de voir revenir, c'est cet argument-là que 16 ans après on risque de voir revenir, c'est « il y a eu des massacres de Hutus par les Tutsis du Rwanda, tout comme il y a eu auparavant » des massacres de Tutsis de la part des Hutus, c'est-à-dire de ramener tout à « eh bien, c'est la guerre, les conséquences terribles de la guerre ».
Ça, je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que l'histoire est toujours écrite par un camp vainqueur. Bon. Et aujourd'hui, quand vous entendez, moi on me l'a dit à plusieurs reprises à la prison d'Arusha, quand vous entendez dire « mais si on avait finalement gagné ou si on avait perdu dans d'autres conditions, on nous appellerait des résistants ». Donc, pour beaucoup, je dirais la légitimité de leur combat et des massacres qui ont été qualifiés de génocide et qui sont bien un génocide, fait encore question. Voilà. Bon, ça, je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Mais où il y a effectivement problème, c'est parce que, moi, je dirais, la responsabilité incombe à la seule instance qui avait l'obligation de dire ces choses et qui ne pouvait pas être taxée d'être coupable, d'avoir à assumer des antécédents, etc. C'était le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il ne devait rien à personne, il avait un procureur indépendant, sauf qu'aucun de ses procureurs successifs n'a osé accomplir et mettre en œuvre la totalité de son mandat, c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide,
et à ce moment-là,
et d'aller au bout.
Alors, aller au bout, ça voudrait dire de prendre en compte ce qui nous préoccupe là, c'est-à-dire les crimes commis par le FPR ou l'APR, aussi bien aux Zaïre.
Non, le tribunal pénal ne pouvait
pas... Il n'avait pas cette compétence-là.
Il n'avait pas cette compétence, mais il pouvait déjà dire ce qui s'est passé au cours de l'année 1994, puisque dans son mandat, le mandat a dépassé le 17 juillet, c'est-à-dire le jour de la fin de la guerre. Son mandat est allé jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire intégrant les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont été commis
au Rwanda,
par l'armée vainqueur. Donc si ce travail déjà-là avait été fait, et s'il avait été possible pour les enquêtes qui ont été mises en place par les Nations Unies, d'être publié et de pouvoir être opérationnel, eh bien, on n'en aurait pas été
qu'est-ce
là
qui
aujourd'hui.
Explique, mais revenez là-dessus, j'aimerais bien comprendre pourquoi le tribunal a été bloqué et entravé comme ça. Il s'est entravé lui-même, il s'est bloqué lui-même, il s'est lui-même limité, ou bien il y a des forces qui sont intervenues et lesquelles ?
Disons que au début, il y a eu des raisons pratiques qui étaient que cette juridiction n'avait pas de tradition. Il a fallu la constituer. Donc, à partir de recrutements hétéroclites, de gens qui ne connaissaient pas, enfin, etc. Et que, qu'on le veuille ou non, la priorité était quand même de juger les crimes de génocide. Et, disons, c'est au nom de cette priorité que, dans un premier temps, il n'y a pas eu de poursuite sur l'armée patriotique rwandaise. Puis, dans un deuxième temps, c'est surtout parce que l'armée patriotique rwandaise n'aurait jamais toléré que des investigations la concernent. Et il a été possible, ensuite, de faire de ce qui était au début un système de pression sur les procureurs, un mode de gouvernement, enfin, ou de gestion tutélaire de ce tribunal pénal. Chaque fois que des procureurs ont tenté de s'émanciper, ils ont été rappelés à l'ordre par le Conseil de sécurité à la demande des autorités rwandaises.
Quelle influence, quelle force quand même.
Oui, mais la communauté internationale, depuis 1994, assume sa culpabilité vis-à-vis d'un génocide qu'elle a vu, qu'elle pouvait pas forcément anticipé sous la forme qu'il a pris, mais en tout cas qui n'était pas à exclure en termes de scénario et vis-à-vis duquel elle n'a jamais bougé.
Ça veut dire que la justice paye un certain tribut à la lâcheté de la communauté internationale.
Oui, et quand elle a tenté de s'y émanciper et de faire son travail de justice intégralement, cela lui a été rappelé parce que le camp vainqueur était dans une stratégie de réécriture de l'histoire.
Est-ce que les choses changent maintenant avec ce rapport au risque de changer ? Parce que ce qu'on est en train d'évoquer acte génocidaire ou pas, c'est un tribunal qui peut en décider.
Bon, alors, c'est bien ça la limite de la qualification. Ça a été exactement la même chose en 1994. Un premier rapport avait parlé d'actes génocidaires, avait dit que la réalité d'un génocide pouvait être avancée. Il n'empêche que le terme de génocide ne peut être utilisé qu'à partir du moment où il est reconnu juridiquement, c'est-à-dire où des instances se saisissent. Bon, et le débat, justement, sur ce rapport, et c'est ça qui est, à mon sens, le plus important, et que on a en fait deux versions. La première version, celle qui était prête à la fin du mois d'août, disait explicitement que l'intention génocidaire était avérée et qu'il fallait passer au stade, disons, juridique et recourir à une instance judiciaire pour l'entériner. Dans la deuxième version, qui a été durement négociée par les autorités rwandaises, il est dit que des enquêtes complémentaires doivent être organisées et il est surtout dit que ces enquêtes doivent concerner les gens qui sont actuellement au Rwanda, c'est-à-dire les rescapés, ceux qui n'ont pas été tués par l'armée rwandaise au Congo, et que dans un deuxième temps, il devra y avoir réexamen. Donc on n'est plus à la formule affirmative, on est dans l'interro-négatif. Et ça, c'est ce qui s'est passé entre la publication par la presse et la version finale. Et là, moi, je voudrais simplement dire une chose, parce que ça permet de comprendre très vite. Bon, dès que ce rapport a été rendu public, on aurait pu s'imaginer, de la part du Conseil de sécurité, et en tout cas de son secrétaire général des Nations Unies, que la première décision à prendre aurait été d'aller se recueillir sur les victimes, puisque ce rapport parle quand même de 4 millions de morts, hein, ce qui est un événement majeur depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, et au lieu d'aller à Kinshasa se recueillir et de dire ce que représentaient ces victimes, à la limite, quels que soient les auteurs, puisque le rapport cite 7 pays comme ayant participé à ces massacres. Et ces massacres ne concernent pas que les Hutus, ils concernent surtout les populations civiles congolaises. Bon, donc au lieu d'aller se recueillir sur les victimes, la première démarche du secrétaire général des Nations Unies a été d'aller à Kigali négocier la réécriture des passages les plus litigieux. Et ça, excusez-moi, je pense que c'est une double défaite ou une double honte de la part à la fois du régime qui l'impose, puisque les lettres qui ont été publiées de la part des autorités rwandaises adressées au secrétaire général disaient que s'il n'empêchait pas la publication, ils retiraient leurs troupes du Darfour.
Le président rwandais stigmatise encore ce matin le rapport de l'ONU
France Info
comme mauvais et dangereux, une insulte à l'histoire.
1er octobre 2010.
Paul Kagame a tout fait pour édulcorer le document, pour en effacer les éléments qu'il juge infamants. Tout fait jusqu'au chantage menaçant de retirer les troupes rwandaises des forces de paix stationnées au Darfour. Mais cette fois, vous l'avez dit, l'ONU a tenu bon. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fait le déplacement à Kigali. Le président rwandais n'a obtenu qu'un report d'un mois de la publication du rapport et la possibilité d'y présenter sa défense sous forme d'annexe. Les Congolais, eux, réclament que justice soit faite, que les coupables soient traduits en justice. On en est encore loin. L'ONU parle simplement de son rapport comme d'une contribution historique qui pourrait, le cas échéant, donner des pistes aux autorités congolaises pour rendre justice aux victimes et combattre l'impunité.
Combien de temps faudra-t-il pour que l'opinion mondiale comprenne ce que veut dire 4 millions de morts dans cette période ?
Ça, c'est une question permanente. Elle est quasiment insurmontable. Il y a des conflits qui n'arrivent pas à la surface, qui ne sont pas audibles, qui ne sont pas tangibles, comme si ces victimes n'existent pas, comme si les crimes commis ne sont pas atroces. Alors, ce qui est justement paradoxal, c'est que la justice pénale internationale, la fameuse cour pénale qui est installée à La Haye, les 5 premiers inculpés sont liés à cette guerre. Ce sont les gens qui ont massacré. Ce qui d'ailleurs fait problème, parce que avoir 5 Congolais comme les premiers inculpés, ça tendrait à penser que les plus grands assassins de la planète sont au Congo. 5 d'un coup.
C'est ce que disent les Congolais quand on est au RDC.
Et ça, c'est une infamie d'une certaine façon.
Oui. Hein.
Bon, le deuxième élément, on n'arrive pas à reconnaître le statut de victime à ces populations civiles qui ont été massacrées. Bon, il y a effectivement les Hutus, mais ceux-là ont été, si j'ose dire, passés à la trappe avec bonne conscience. Les rapports américains, comme de la quasi-totalité du système des Nations Unies, ont considéré que c'était une sorte d'opération chirurgicale. Quand on voit qu'à Kisangani, après plus de 100 000 personnes massacrées dans les camps des Nations Unies, du HCR, les autres ont été rapatriés en avion par le HCR dans le pays bourreau, c'est quand même extraordinaire eu égard au statut du HCR. Donc, au cours de cette période, on a quand même innové dans le domaine du droit humanitaire ou de la non-reconnaissance d'un certain nombre de droits. Mais après, il y a les victimes civiles congolaises qui, celles-là, sont au passif sans même avoir d'identité. Et là, je crois que c'est ça aujourd'hui qui fait véritablement problème avec ce mapping. D'un côté, on en est à des arguties juridiques qui sont légitimes. Je comprends que les pays mis en cause recourent à différents artifices parce que c'est quand même tellement énorme ce qui est écrit dans ces rapports. Mais au lieu de l'assumer cette fois-ci pour de bon, au niveau du système des Nations Unies, on tergiverse. Mais par contre, au niveau congolais, la population ne sait comment prendre cela. Pour une raison simple, c'est que leur président actuel est en négociation pour rétablir un minimum de relations pacifiées avec les autorités rwandaises. Et on a bien l'impression que les deux personnes les plus intéressées à ce que ce mapping n'ait pas de résultat sont sont en fait les deux présidents, c'est-à-dire le principal, celui qui était responsable des massacres directement ou indirectement. Bon,
et le président du pays où
j'ai eu... victime. Et les populations sont, je dirais, les victimes à un double niveau. C'est qu'en plus, on leur interdit la possibilité d'affirmer et de reconnaître la réalité de ces massacres.
Merci André Guichawa. Je rappelle le titre de son bouquin « Rwanda, de la guerre au génocide, les politiques criminelles au Rwanda ». De 1990 à 1994, c'est aux éditions de La Découverte et c'est suivi d'un site www.rwandadelaguerreaugenocide.fr, rwandadelaguerreaugenocide.fr, tout attaché. Et ce site est bourré d'agendas, de documents confidentiels, de témoignages, c'est-à-dire que le livre continue sur le site. Demain, on retourne en République démocratique du Congo, dans le Massissi, sur les traces des mines de coltan, et vous allez voir. Là, on va barouder demain avec le camarade Guy. On va en baver. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Et vous pouvez également réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, c'est Koy Nguyen et Franck Adherer qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Marina Touyez. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Je suppose beaucoup de messages sur ces sujets qui vous passionnent.